Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour à tous. Et vous, qu'en pensez-vous de l'IA, l'intelligence artificielle dont on nous parle en permanence comme une solution à tous nos problèmes, ou presque, se soigner, écrire, réfléchir, échanger, se déplacer et pourquoi pas aussi manger ou dormir. ChatGPT a ouvert le bal il y a 2 ans aux grandes dames des enseignants qui de plus en plus souvent bannissent les devoirs à produire à la maison pour leurs élèves. Trop facile de taper quelques mots sur un clavier pour aboutir à un texte qui a l'air d'avoir été pensé par un humain. Et les entreprises dans tout ça, y trouvent-elles déjà leur compte dans ces technologies, certes prometteuses, mais dont l'efficacité ne saute pas forcément immédiatement aux yeux? L'IA rend-elle les salariés plus productifs? Augmente-t-elle les profits de leurs employeurs? Voilà la première question que nous allons nous poser. Et puis il y en a une seconde, les entreprises autour de l'IA, les géants comme Nvidia, Microsoft ou encore OpenAI, le créateur de ChatGPT, mais aussi les plus petites, les très nombreuses start-up qui en ont fait leur métier. Toutes ces sociétés accroissent-elles réellement leur rentabilité? Les investisseurs sont-ils toujours au rendez-vous en sachant que la bataille de l'intelligence artificielle se joue aussi sur les marchés financiers? Pour en parler, nous serons dans quelques instants dans les locaux de l'une de ces entreprises qui inventent l'IA de demain. Et puis, j'ai à mes côtés en studio un expert de ces questions de l'économie, de la tech, Julien Pillaud. Bonjour.
Bonjour.
Enseignant-chercheur à l'INSEC Grande École, auteur d'un article détaillé sur ces questions dans la revue scientifique The Conversation. Les investissements massifs, les gains de productivité, les freins réglementaires, les freins énergétiques et une menace, l'IA est-elle une bulle qui pourrait se dégonfler ou alors éclater? On va en parler. Écho d'ici, écho d'ailleurs, chaque samedi, 10h10, temps universel et en podcast sur RFI.fr ainsi que sur notre plateforme de réécoute Pure Radio. Cette semaine, on parle donc de l'IA et puis en fin d'émission, rencontre avec un jeune entrepreneur sénégalais qui mène un projet de mobilité électrique. Une voiture made in Africa, Rui Mendes da Silva, associé à une ingénieure nigériane. Les deux seront avec nous tout à l'heure.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, pour comprendre le monde et ses valeurs. Écoutez ces voix qui éclairent nos heures. Vos analyses précises m'offrent tant de science.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, quelques mesures de la chanson que nous vous faisions découvrir la semaine dernière. Une chanson intégralement écrite par un logiciel utilisant l'intelligence artificielle. Les possibilités sont infinies, mais pour quel bénéfice? On va se poser toutes ces questions, Julien Pillaud, avant d'écouter un exemple, dans quelques instants, un aperçu global du marché. Il y a pas mal de chiffres qui circulent, mais selon certains chiffres, le marché de l'IA représentait déjà en 2023, l'an dernier, plus de 240 milliards de dollars dans le monde. Ça pourrait doubler d'ici 2027 et ce chiffre de 2027 pourrait encore tripler d'ici 2030.
Effectivement. Bon, il s'agit quand même de démystifier un petit peu ces chiffres-là parce qu'il y a beaucoup d'opacité quand même sur ces marchés qui sont en phase de structuration, qui sont aussi des marchés qui sont extrêmement financiarisés aujourd'hui avec des levées de fonds qui parfois sont publiques, puis d'autres fois sont un peu plus secrètes. Et puis aussi des problématiques de périmètre. On a tendance à mettre un petit peu tout et n'importe quoi dans l'IA. Mais les chiffres dont on vient de parler sont dans les ordres de grandeur qu'on peut aujourd'hui estimer comme étant correct. J'en ai d'autres à donner à vos auditeurs aujourd'hui. 200 milliards, c'est la somme qui aurait été investie par les seuls GAFAM, donc les très gros acteurs du numérique américain, dans l'intelligence artificielle pour la seule année 2024.
Donc pas sans les Chinois, sans tous les
sans
autres.
Sans les Chinois, sans tous les autres, et sans toutes les petites start-up, etc. Et 1000 milliards, c'est certaines estimations de ce que pourrait peser le marché au horizon 2027-2030.
Et au niveau du rythme des investissements, ça continue de monter en flèche ou on a déjà une courbe qui commence à s'adoucir?
Alors, ça continue de monter en flèche, mais on a eu un premier très gros signal d'alerte pendant la trêve estivale, où il y a eu pas mal de mouvements correctifs.
L'été 2024.
Exactement. Exactement. On a eu beaucoup de mouvements correctifs, avec des prises évidemment de plus-value, des investisseurs donc, qui ont récupéré une partie de leur mise, à un moment où la contraction macroéconomique se faisait forte et qu'ils avaient besoin de rationaliser un petit peu leurs investissements. Mais c'est aussi peut-être un premier signal d'alerte sur le niveau de confiance générale que peuvent porter les investisseurs et le marché à l'intelligence artificielle, alors qu'on commence à avoir de premiers retours sur expérience de cette intelligence artificielle lorsqu'elle est déployée dans les entreprises, avec des niveaux de productivité atteints qui ne sont pas toujours aussi bons que ceux qui sont vendus par les promoteurs.
Eh bien justement, Julien Pillot, vous restez avec nous en studio. On va se téléporter à quelques kilomètres d'ici, à Levallois-Perret, toujours en banlieue parisienne, dans les locaux d'une start-up française qui a créé un assistant vocal spécialement destiné aux entreprise. Grâce à l'IA, cet assistant synthétise les réunions entre collaborateurs ou avec des collaborateurs d'autres entreprises. On sait que souvent, ça n'est pas une mince affaire de synthétiser tout ça soi-même. Sidext, c'est le nom de cette entreprise dirigée par Inès Besbès, dont nous faisons la connaissance.
Alors, tout a commencé en fin 2021, lorsque j'ai gagné un concours Salesforce qui m'a permis d'avoir ce premier pied dans le monde de l'entrepreneuriat, avec un concours de gagné qui m'a permis d'avoir des bureaux, des premiers financements pour démarrer l'activité de Sidext. J'ai démarré seule l'activité, aujourd'hui on est une quinzaine de personnes dans la société. On est en train aussi d'accélérer fortement la croissance commerciale de Sidext, mais aussi toute notre équipe technique de R&D, etc. En 2 ans, Sidext, ça a été assez une belle aventure. On a commencé avec un premier produit, 1 an de R&D, donc on n'était pas vraiment sur le marché. On a gagné pas mal de concours comme SAP, Google, et grâce à ces concours, on a pu se financer, on a pu se développer. Et ensuite, il y a 1 an, je sors le produit au grand public pour la première fois. Et aujourd'hui, on compte près d'une quarantaine de clients. On a fait une levée de fonds aussi qui était assez intéressante pour notre croissance. On a levé 2 millions d'euros pour accélérer notre commercialisation sur le marché.
Alors, racontez-nous votre histoire à vous. Vous avez un parcours international, c'est ça?
C'est ça, exactement. Donc, j'ai 7 ans d'expérience dans la tech, notamment en IoT, IA et cyber. J'ai étudié et travaillé sur plusieurs continents. J'ai commencé en Hollande, ensuite j'étais en Asie, puis en Australie et aux États-Unis. J'ai travaillé d'abord en grand groupe chez Google. Ensuite, j'étais en scale-up à Hong Kong dans tout ce qui était IoT et IA. Et j'ai travaillé pour le gouvernement français dans la défense et le militaire, plutôt dans la partie cyber. Et grâce à ces expériences, j'ai pu comprendre le milieu de l'innovation, de la technologie et aussi savoir que c'était une de mes passions pour pouvoir démarrer ma boîte.
Une parenthèse, vous avez été formé en France, vous êtes d'origine tunisienne, vous avez un regard sur la tech dans ce pays. On sait que c'est un secteur qui se développe très vite aussi.
Alors oui, effectivement, je suis d'origine tunisienne. D'ailleurs, je fais un petit coucou à mon papa qui est en Tunisie actuellement. Et effectivement, on est dans un pays qui a une forte croissance parce qu'on a des développeurs qui sont extrêmement bons. On a un excellent niveau au niveau des maths, des sciences, etc. dans ce pays. Et je pense que très sincèrement, de manière générale, je pense que la Tunisie va prendre sa place dans les prochaines années au niveau de l'informatique, de la tech. Et notamment là avec l'IA, je connais pas mal de startups qui collaborent beaucoup avec des Tunisiens qui ont justement cette compétence au niveau technique.
Venons-en à Sidext. Qu'est-ce que vous proposez? Quels outils vous proposez pour améliorer la productivité d'autres entreprises?
Alors, on propose donc cet assistant intelligent qui permet d'accompagner chaque collaborateur pendant leur réunion, pouvoir faire une prise de notes en automatique pour que les collaborateurs n'aient pas à se préoccuper de prendre des notes, mais plutôt à être directement concentrés dans la réunion avec leur interlocuteur. Sidext va donc générer des comptes rendus personnalisé, basé sur le métier de la personne, sur les acronymes, le jargon, etc. C'est un outil qui est 100% sécurisé, donc qui est utilisé par beaucoup de grands groupes aujourd'hui, qui est français et souverain, et c'est vraiment ce qu'on prône aujourd'hui sur le marché. Et évidemment, les données appartiennent aux collaborateurs ou à l'entreprise, et l'idée, c'est justement que cet outil puisse aider au quotidien tous les collaborateurs à prendre des notes, mais aussi potentiellement l'utiliser à des fins de formation pour former de nouveaux collaborateurs, etc.
Ça veut dire que je rentre mon profil au préalable et après, la prise de notes se fait en fonction de ce qui m'intéresse moi et ce qui n'intéresse pas forcément les autres.
Alors en fait, vous allez retrouver des modèles qui sont complètement personnalisés, qui vont être soit générés par vous parce que vous aviez une manière de prendre vos notes de manière spécifique, donc très détaillée, plus synthétique, avec des mots en particulier. Vous allez avoir ce modèle personnalisé intégré, mais aussi votre glossaire interne. C'est-à-dire que ce glossaire va être soit le glossaire de l'entreprise, donc tous les acronymes internes de l'entreprise, soit ça va être un glossaire qui va être par rapport à votre métier, ou un glossaire que vous allez rentrer manuellement en disant « moi j'ai un nom de projet qui va être de temps, ça veut dire ça, quand je vais avoir un acronyme qui est lié à mon projet actuel, il aura cette signification ». Et la bonne nouvelle avec Sidext aussi, c'est que c'est un assistant qui apprend au fur et à mesure. Donc, il y a ce côté, entre guillemets, feedback loop. Donc, en fait, c'est une boucle d'apprentissage au quotidien de l'outil sur votre manière de prendre des notes et les différents modèles que vous allez utiliser.
Ça veut dire que si je suis un prestataire extérieur et que je ne connais pas grand-chose à l'entreprise avec laquelle je vais travailler, ça va m'aider à comprendre plus vite le jargon et donc accélérer finalement la collaboration.
Alors, la bonne nouvelle au niveau des... pour la collaboration de manière générale, l'outil peut être extrêmement pratique pour les collaborateurs qui ont peu de connaissances, par exemple, dans un secteur ou avec un client, parce qu'ils ont accès à un... Donc, il y a un chat interne qui permet de poser des questions basé sur la réunion, dans la langue native du collaborateur. C'est-à-dire que ça fait deux choses. La première, c'est qu'avec ça, on peut avoir accès à toutes les informations. Donc, on pose une question. Par exemple, si c'était très, très technique, on peut demander à l'IA de vulgariser un point en particulier pour nous aider à comprendre. Et la deuxième chose, c'est pour les équipes, par exemple, multilingues ou les équipes avec des accents ou par exemple, si c'est un meeting en anglais et qu'on a des collaborateurs en français, on a des collaborateurs espagnols, etc., on peut poser la question à l'IA dans notre langue native pour nous répondre dans notre langue native sur les informations dont on a besoin. Donc typiquement, quel est le budget du prestataire en face? Si moi, je n'ai pas compris ça dans la langue en anglais, eh ben, je peux la poser en français et avoir toutes les informations en français, ce qui permet une meilleure collaboration interne.
Alors, on comprend bien le principe et l'intérêt potentiel. Maintenant, du point de vue des entreprises avec lesquelles vous travaillez, comment vous évaluez l'apport de vos outils? Quels sont les indicateurs précis pour évaluer une hausse de productivité?
Alors, les indicateurs sont simples, c'est le retour sur investissement. La plupart des entreprises vont nous dire « je veux bien installer cet outil, mais ça me rapporte quoi concrètement ?» Et l'indicateur, c'est combien de temps vous passez aujourd'hui à faire des comptes rendus de vos réunions. Déjà, est-ce que vous faites des comptes rendus ou pas dans votre entreprise? Est-ce que votre entreprise est structurée? Est-ce que cette base de connaissances, parce qu'aujourd'hui, on compte que la base de connaissances qui est liée à toutes les réunions, donc tout ce qui est dit à l'oral, est perdue. Et en général, ça représente 70 à 80% du travail des collaborateurs au quotidien. Donc, est-ce que déjà cette donnée est structurée? Combien de temps ils prennent aujourd'hui pour structurer cette donnée, donc faire des comptes rendus, des rapports, prendre des notes, etc. Et sur ça, donc sur ce temps-là, combien cela coûte à l'entreprise chaque année? Et on l'a estimé aujourd'hui avec Sidext, avec des moyennes internes qui ont été mises en place, c'est près d'un mois de salaire par an, par employé, qui est dédié spécifiquement à cette prise de notes et structuration des informations et des comptes rendus.
Donc vous diriez un douzième du salaire d'un salarié.
Donc c'est exactement ça. Et en plus de ça, ces informations sont perdues, c'est-à-dire que sur le long terme, si elles ne sont pas structurées correctement, dans 2 ans, 3 ans, quand il y aura de nouveaux collaborateurs, il faudra régénérer des informations, refaire des meetings, refaire des allers-retours entre des collaborateurs, donc perte de temps qui aujourd'hui n'est pas identifiable parce qu'on peut pas traquer cette perte de temps, mais qui a ajouté sur ce mois de salaire en complément, qui est de tous les allers-retours, retrouver la bonne information, essayer de revenir dessus, etc.
Est-ce qu'il y a des secteurs de l'économie que ça intéresse plus que d'autres. Est-ce que c'est dirigé avant tout vers le secteur tertiaire ou est-ce que ça peut concerner aussi les autres secteurs, l'industrie ou, et pourquoi pas l'agriculture ?
Alors aujourd'hui, on a beaucoup de grands groupes, donc on a des grands groupes qui sont dans l'assurance et dans la banque, mais on a aussi beaucoup de grands groupes publics qui l'utilisent donc au siège, mais aussi sur terrain. Et on a des entreprises, par exemple, donc industrielles, mais de BTP aussi qui l'utilisent pour tout ce qui va être, on peut citer par exemple, tout ce qui va être sur chantier, dans les usines, tous ces aspects-là qui ne sont pas encore couverts par des outils d'intelligence artificielle, je pense que cela va toucher tous les secteurs confondus, d'une manière ou d'une autre, et ça va venir de manière incrémentale, évidemment, mais je pense très sincèrement qu'il n'y aura pas un seul secteur de toucher, mais que ça touchera les secteurs dans la globalité, mais les IA de demain seront personnalisées à l'activité et au secteur, donc vont pouvoir comprendre le mécanisme et le travail de chacun pour avoir une vraie plus-value.
Inès Besbes, quel regard vous portez sur le débat actuel autour de l'emploi et de l'intelligence artificielle ? On n'a pas encore de données définitives, on n'a pas encore d'avis définitif sur combien d'emplois vont être de fait supprimés du fait de l'intelligence artificielle et de l'autre côté, combien l'intelligence artificielle va en créer. Quel est votre regard ?
Alors on va avoir la même vague, je pense, que lorsque la bulle Internet a éclaté, c'est-à-dire qu'il y aura de nouveaux emplois qui vont être créés, il y aura des emplois qui vont être transformés, c'est-à-dire que nous on crée des assistants, on ne crée pas des remplaçants. Les assistants sont vraiment là pour assister les collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils vont aider les collaborateurs à être plus productifs, plus épanouis, à être beaucoup plus engagés aussi et avoir une vraie valeur ajoutée dans leurs emplois. Et on va permettre d'automatiser toutes ces petites tâches qui vont être chronophages. Je pense que les IA de demain vont clairement pas remplacer les collaborateurs, mais plutôt les aider à être plus performants, comme avec la bulle Internet où justement ça nous a aidés dans notre performance au quotidien. Là aujourd'hui, on va arriver justement à avoir cet impact-là. Et on va en plus créer de nouveaux secteurs d'activité, on va créer aussi un nouvel emploi, par exemple le prompt engineering. Avant, on ne savait pas ce que c'était.
C'est quoi ?
Le prompt engineering, ça permet de créer donc des instructions qui vont être très précises pour les IA, pour qu'elles puissent exécuter une certaine tâche. Et pour ça, donc, il y a des métiers qui ont été créés pour instruire les intelligences artificielles. Donc il y a pas mal de filières et même au niveau éducation, je pense qu'il y aura beaucoup de programmes qui vont émerger grâce à l'intelligence artificielle pour informer et éduquer une toute nouvelle génération.
Merci Inès Besbes, vous restez avec nous. On va justement aller voir un petit peu plus loin, ici dans les locaux de Sidext, comment fonctionnent ces solutions. Et nous sommes avec Mayol qui va nous expliquer ça. Bonjour.
Bonjour.
En quelques mots, comment est-ce que ça fonctionne cette solution pour synthétiser une réunion qui peut durer un quart d'heure, une demi-heure, une heure?
Alors la première chose à savoir avec Sidext, c'est qu'on a la possibilité d'aller inviter Foxy, donc, qui est notre assistant virtuel, sur trois types de réunions différentes. C'est le présentiel, l'hybride et le distanciel. On va être totalement agnostique sur toutes ces façons de faire nos réunions.
Donc vous êtes des enfants du Covid, hein. C'est vraiment la pandémie qui a tout changé.
C'est exactement ça, mais c'est surtout qu'on est des enfants du Covid, donc sur le distanciel, mais on n'oublie pas non plus le présentiel. On sait que c'est encore très implanté et que ça a tendance à revenir en force du côté de nombreuses entreprises. Donc on a vraiment axé notre solution sur la possibilité d'être en présentiel.
On a une réunion, comment est-ce que ça fonctionne la retranscription et qu'est-ce qu'on a comme résultat ?
Alors le résultat, il va vraiment dépendre notamment de la personnalisation qu'on aura choisie pour notre outil, puisqu'on va avoir la possibilité d'aller importer un glossaire, un jargon d'entreprise, donc que ce soit des prénoms, des noms propres, des abréviations, etc.
Même quand on s'appelle Mayol et qu'on a un prénom pas forcément répandu.
Exactement, on peut apprendre à Foxy à orthographier un prénom comme Mayol, donc il n'y a aucun souci pour tous les autres prénoms ou termes. Mais on va également aussi pouvoir choisir le modèle de synthèse, donc la forme dans laquelle notre compte-rendu va être fourni. Donc tout ça, ça va se passer directement à la demande, c'est-à-dire qu'on a en interne, dans nos équipes, des personnes qui vont être spécialisées dans la création de ces prompts pour avoir des modèles les plus qualitatifs possibles, pour pouvoir être disponibles pour tout le type de cas d'usage dans le plus d'entreprises possible.
Donc là, on a l'exemple d'une réunion qui s'est faite avec l'Asie, je crois.
C'est ça. Donc là, c'était une réunion interne où donc on était 3 sur site et on avait un des collaborateurs qui est en Indonésie actuellement. Donc on a pu utiliser Sidext pour avoir un récap complet parce qu'on avait aussi des collègues qui n'ont pas pu venir à cette réunion. Mais ils vont quand même pouvoir profiter d'une synthèse complète. Donc là, je suis sur un modèle, par exemple, où ça va vraiment nous retracer un ordre du jour, nous lister tous les points discutés avec les citations, les décisions prises, etc. Mais je vais également pouvoir choisir un modèle beaucoup plus synthétique. Ça va juste me relancer une génération. Ça va être l'histoire de quelques secondes. Et je vais pouvoir retrouver la même réunion selon un autre modèle de compte-rendu, donc un autre format d'information.
Donc là, on a objectif, point clé, action. C'est ça le modèle le plus synthétique.
C'est ça. Donc là, on est vraiment sur la base du modèle où on va avoir des bullet points et très synthétique, sans réelle analyse, etc. Mais cette analyse, je vais pouvoir aller directement poser des questions à Foxy sur cette réunion pour aller demander plus de détails sur un point, pour demander de me rédiger un mail de follow-up, de même me rédiger la note de CRM, une to-do list, etc., etc. Même du feedback sur les participants. Ça va vraiment être tout l'outil d'analyse. Ça va se passer par un chat textuel avec Foxy, tout en restant exclusivement et totalement sur le contexte de la réunion. Il n'ira pas chercher d'informations ailleurs. Et donc, par définition, il n'enverra pas ces informations ailleurs.
Des outils qui sont, on l'imagine, très utiles dans une entreprise a posteriori, c'est-à-dire 3 mois, 6 mois, 1 an après la réunion. Forcément, on a tout oublié dans son propre cerveau, mais on peut retrouver une trace assez synthétique qui permet d'aller plus loin 1 an plus tard.
C'est exactement ça, et je pense qu'on a tous eu cette expérience de lorsqu'on prenait encore nos notes à la main. 3 mois après, on reprend nos notes, on ne comprend plus rien à nos notes parce qu'on n'est plus dans le contexte. Et là, justement, on va avoir cette synthèse qui va être, si on le souhaite, très synthétique, donc on aura peut-être du mal à comprendre 3 mois après. Mais la possibilité de poser les questions à Foxy, ça va nous permettre de se remettre totalement dans le contexte et de pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour reprendre ce dossier même 3 mois après.
Est-ce que vous voyez à l'usage des pistes d'amélioration encore, des choses qu'on n'est pas encore capable de faire ?
Forcément, il y en a, et des choses qu'on n'est pas capable de faire, j'ai envie de dire, on est capable et on est en train de le faire. On a tendance à vouloir multiplier les sources d'entrée. Donc, c'est-à-dire que là, on va se cantonner à l'audio et donc à du textuel pour la transcription. Forcément, on aura envie d'avoir du visuel également qui va rentrer. On va vouloir pouvoir intégrer du contexte à la réunion, etc., etc. C'est vraiment l'idée de pouvoir développer la source d'entrée le plus possible.
Parce que quand on est dans une réunion, il y a beaucoup de choses aussi qui passent par la communication, par les gestes, hein, tout simplement.
Exactement. Mais l'idée va aussi et surtout de rester un assistant et de ne pas remplacer. C'est-à-dire qu'il va falloir multiplier les entrées, pouvoir aller analyser plus de contenu tout en restant respectueux de la vie privée de chacun et des données des entreprises et en gardant ce côté d'assistant et pas de remplaçant de certaines personnes.
Merci Mayol.
Je vous en prie.
Voilà donc pour cet aperçu du travail de Sidext, de ce qui est encore à améliorer et de ce qu'il faut protéger aussi. Julien Pillaud, on revient vers vous. On voit bien ici les bénéfices potentiels de l'IA. On y retournera dans quelques minutes chez Sidext pour parler des questions de rentabilité, des relations avec les investisseurs. Mais qu'est-ce que ça vous inspire d'abord, cet exemple ? On a peut-être là quelque chose qui fonctionne. Les gains de productivité, ils ne sont pas toujours évidents pour toutes les entreprises.
Absolument. Déjà, je veux souligner l'extrême richesse du sujet qui permet d'aborder quasiment tous les aspects et même les aspérités du problème de l'introduction de l'IA pour les entreprises. Déjà, la première chose, c'est que pour faire de l'IA, il faut des compétences. Et ces compétences, on aurait tort de penser qu'elles ne se situent que dans les pays développés et en plus forte raison dans la Silicon Valley. Il y a des compétences en Afrique, il y a des compétences en Asie, il y a des compétences en Inde. Et en vérité, il y a un écosystème aujourd'hui de la tech qui est disponible sur étagère avec des gens qui sont extrêmement bien formés et on aurait tort de penser qu'ils ne se situent que dans les pays développés et qui brillent de par leur production scientifique tout au long de l'année. Ensuite, il y a d'autres choses qui ont été très intéressantes dans ce sujet-là, c'est déjà l'entreprise a des clients. Ce qui veut dire que sa solution, elle est performante. Elle est performante parce que sinon, les clients, ben, ils seraient partis. Ils partent d'une quarantaine de clients. Et ces clients, ce n'est pas n'importe qui, c'est plutôt des gros comptes. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aujourd'hui. Les premiers adoptants de solutions d'intelligence artificielle, que ce soit pour synthétiser des réunions ou que ce soit pour automatiser certaines tâches, sont plutôt des grands groupes, soit publics, soit privés, mais des entreprises ou des organisations qui ont les moyens de pouvoir tout simplement tester ce genre de solution.
Ils ont de l'argent à mettre dans l'innovation, même s'ils sont peut-être moins agiles qu'une plus petite entreprise.
Ils ont de l'argent et ils ont aussi autre chose, ils ont des problématiques de coûts. C'est-à-dire que qui dit grosse organisation dit aussi, bien en vérité, beaucoup de départements, beaucoup de réunions, beaucoup d'intrants finalement, beaucoup de consommation intermédiaire. Et ce sont aussi ces entreprises-là qui peuvent voir l'intérêt d'appliquer très tôt des solutions d'intelligence artificielle qui vont venir en fait automatiser certaines tâches et réduire la structure de coûts qui parfois peut être un petit peu étouffante.
L'intelligence artificielle très utile quand c'est complexe, quand il y a un émiettement des responsabilités, quand on a plein de services qui ont du mal à se parler.
Alors à la fois en matière de complexité, c'est une réponse clairement à certaines complexités organisationnelles, mais c'est aussi, là c'est aussi le paradoxe, aujourd'hui des solutions qui ont plutôt tendance à avoir une capacité à remplacer ou à seconder l'humain sur des tâches qui sont extrêmement répétitives, très processuelles en vérité. C'est d'un côté, c'est un outil.
C'est sûr que faire le compte-rendu d'une réunion, c'est pas forcément passionnant.
Exactement, c'est pas forcément passionnant. Et puis en plus de ça, on peut se dire que ça prend beaucoup de temps si ça doit être bien fait et que ce sera pas toujours vraiment lu à la sortie. Donc si on peut l'automatiser de façon imparfaite, parce qu'on va y revenir, mais ces solutions ne sont pas encore parfaitement au point. D'ailleurs, c'est souligné par vos intervenants, ils disent qu'il y a encore des voies d'amélioration, et puis surtout, ils n'entendent pas ça substituer à l'humain, ils veulent l'augmenter, ou en tout cas le seconder. Mais c'est vrai que tout ce qui est la partie non-verbale finalement d'une réunion, une intelligence artificielle aujourd'hui, elle va avoir du mal en fait à retranscrire cette partie-là, parce qu'elle est basée sur la captation de ce qui est facile aujourd'hui à capter, c'est-à-dire plutôt la voix et éventuellement la numérisation de documents qui pourraient être transmis et prêtés à son attention. Mais tout ce qui est dans le non-verbal finalement et qui est très important parce que ça apporte beaucoup d'informations à une réunion, ça pour l'instant l'intelligence artificielle ne le fait pas ou le fait mal. Il faudrait aussi imaginer peut-être des captations extrêmement précises au niveau de l'image et la capacité peut-être d'une intelligence artificielle de pouvoir capter et retranscrire les émotions, donc on n'est pas forcément encore
les,
tout
les
à fait
rapports de force, forcément, entre un employeur et son salarié. Ça
exactement.
Peut exister.
Et ça, c'est un message qui devrait nous rassurer, nous, en tant qu'humains, parce qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de choses qu'une intelligence artificielle ne peut pas faire et ne pourra pas forcément faire aussi bien que l'être humain, même à horizon de 5 à 10 ans. Et ça veut dire quelque part que nos emplois, en tout cas tous nos emplois, ne sont pas menacés, déjà d'une part, et ça nous laisse le temps de nous adapter, c'est-à-dire d'apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle et apprendre en quoi est-ce qu'elle peut nous simplifier la vie très concrètement et très quotidiennement au travail. Donc on a un peu de temps devant nous, mettons-le à profit.
Donc pour des tâches bien définies, hein, c'est ce qu'on comprend. Là, on parle de l'intelligence artificielle dans les services. À quel secteur ça peut être le plus utile? Quand on parle de complexité, par exemple, il y a une activité qui est très complexe, c'est l'agriculture. On dépend de la météo, on dépend de ses animaux, on dépend d'une récolte. Enfin voilà, c'est très complexe.
Absolument, parce que les paramètres qui vont influer sur la qualité ou la quantité de la récolte, ils vont être multiples. Et généralement, avec des boucles d'interaction entre les différents phénomènes ou les différents paramètres, qui sont extrêmement compliqués à pouvoir être observé et quantifié par un être humain tout seul de son côté. Donc l'intelligence artificielle, pour ces tâches extrêmement complexes, en se basant sur les données et l'analyse des données en temps réel qui peuvent être produites par tout un tas de capteurs qui enregistrent la donnée et la traitent, bah derrière, ça nous permet d'avoir un niveau d'information qui va pouvoir, derrière à l'être humain, parce qu'on en revient toujours à l'être humain, d'avoir une approche différente et surtout plus performante de son métier, en pouvant avoir des couvertures de risque, par exemple, qui sont meilleures, ou pouvoir éventuellement anticiper certains aléas qui peuvent avoir une influence sur son niveau de productivité. Mais l'agriculture est un secteur, mais en vérité, quasiment tous les secteurs vont être confrontés d'une manière ou d'une autre à l'intelligence artificielle, parce que dans tous les secteurs d'activité, on peut trouver des voies d'amélioration de ce que l'humain peut faire lorsqu'il travaille avec la machine de façon symbiotique, ou quelque part, la machine peut carrément se substituer à l'être humain. Mmh. La conduite autonome, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Un jour, probablement, que l'intelligence artificielle permettra de pouvoir avoir une régulation du trafic basée sur l'autonomie de la conduite de la quasi-totalité du parc circulant. En tout cas, c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Et en vérité, il n'y a pas beaucoup de secteurs, de l'agriculture à la conquête spatiale, en passant par l'autonomie de conduite, qui ne peut pas trouver un intérêt applicatif, en fait, à ces outils d'intelligence artificielle.
Dans la mesure où on a les moyens de réviser ces process, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises.
Ce qui n'est pas le cas de...
Revoir son organisation interne, ça coûte de l'argent, ça prend énormément de temps et d'énergie. Quand on est le patron d'une PME, c'est pas forcément facile.
C'est tout le nœud du problème, et ça ne concerne pas que les PME, hein, les rigidités organisationnelles, l'adversité au changement, quelque part la capacité qu'on peut avoir les entreprises à se complaire dans certaines routines aussi, sont autant de freins à l'adoption de ce genre d'outils, de ce genre de technologie. Et ces routines-là, on les retrouve autant chez les grandes entreprises que chez les plus petites, parfois de façon bien plus marquée d'ailleurs chez les grandes entreprises qui ont besoin d'avoir encore plus de process pour justifier tout simplement certains niveaux hiérarchiques et certaines prises de décision sur du management, du top management, du management intermédiaire. Chez les petites entreprises, on aura peut-être un petit peu moins de rigidité de ce type-là, mais on percevra peut-être un peu moins rapidement l'utilité d'alourdir sa structure de coûts pour intégrer ce type d'outils d'intelligence artificielle qui peut paraître assez coûteux. Et finalement, pas nécessaire sur le très court terme. Mmh. Et puis, il peut y avoir aussi ce côté, laissons les grosses entreprises bêta-tester un peu les solutions, et nous, éventuellement, on verra si, effectivement, ça permet d'améliorer notre quotidien une fois que l'ensemble des bugs auront pu être corrigés par les grosses entreprises qui sont les premiers adoptants, en fait, de ce type d'innovation, quoi.
Et puis, Julien Pillot, il y a une question qui est centrale à l'intérieur de ce chapitre, c'est celle de l'estimation, de l'évaluation de ces gains de productivité. Comment savoir combien d'argent on gagne grâce à l'intelligence artificielle? Il y a des prévisions qui sont faites chaque année et qui se vérifient pas toujours. Les gains de productivité sont-ils parfois surestimés?
Alors, déjà dans votre sujet, on parle des gains de productivité, c'est dit par votre intervenante, elle parle de retour sur investissement pour l'entreprise qui adopte la solution d'intelligence artificielle. Donc en gros, sans rentrer dans des jargons trop techniques sur le plan économique, on va faire le ratio entre la production et l'ensemble des intrants qui sont nécessaires à la production, et ça va nous donner un niveau de productivité. Si le fait d'avoir un intrant supplémentaire, qui est la solution d'intelligence artificielle, est plus que compensé par le niveau de production qui peut être réalisé par ailleurs, on va considérer qu'il y a un retour sur investissement positif, il y a un gain de productivité. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire sur le plan très micro. Maintenant, sur le plan macro, il y a un vrai débat aujourd'hui qui est ouvert, qui va faire qu'évoluer, déjà parce que les solutions techniques évoluent elles-mêmes, et aussi parce qu'on apprend à comprendre aussi tous les impact de l'intelligence artificielle lorsqu'on les applique dans des secteurs définis ou dans des métiers définis. Sur le plan macro, on a une étude de référence qui est celle de Goldman Sachs, qui date de 2023, qui faisait état de gains de productivité liés à l'intelligence artificielle à horizon de 10 ans, de l'ordre de presque 10%. 10 points de productivité et un peu plus de 6 points de croissance. C'était 6,1 points de croissance pour la croissance ce qui concerne l'économie américaine. Donc, on était sur des niveaux qui étaient extrêmement
optimistes,
très optimistes et très importants.
D'ailleurs, à ce propos, on va écouter très rapidement l'un des lauréats du prix Nobel d'économie 2024, Daron Acemoglu, qui est très sceptique sur la qualité de cette analyse et la qualité de ses prévisions.
L'IA suscite beaucoup d'enthousiasme et sans aucun doute, ces modèles réalisent des choses que les gens pensaient impossibles il y a 10 ans. C'est donc une grande réussite, impressionnante à bien des égards. Mais quand on regarde réellement les données statistiques, la plupart des choses que font les humains, eh bien, ces modèles n'en sont pas capables. Nous ne savons pas ce qui sera possible dans 50 ans, mais pour les 10 prochaines années, nous savons plus ou moins ce que les technologies vont pouvoir faire. Ce sont des estimations, mais j'arrive à un chiffre selon lequel seulement environ 4,5% des activités des travailleurs américains seront concernées directement par l'IA. Les impacts indirects sont plus difficiles à évaluer, mais l'impact direct, lui, ne concerne qu'environ 4,5% de l'économie, avec une amélioration de la productivité et une réduction des coûts. Donc certes, ces modèles sont performants parce qu'ils automatisent certaines tâches ou parce que parfois ils aident les travailleurs, mais au final, ça ne représente que moins de 1% du PIB.
Daron Acemoglu, l'un des prix Nobel d'économie 2024, qui pense que les gains de productivité sont un peu surestimés. Qu'en pensez-vous, Julien Pillaud ?
Alors, selon lui, ils sont très fortement surestimés. Et ce qu'a fait Daron Acemoglu, qui est quelqu'un qui est extrêmement écouté, c'est un économiste de l'innovation parmi les plus écoutés du monde, il travaille au MIT, il a fait une modélisation. Et dans cette modélisation, enfin à l'issue de cette modélisation, il a des résultats qui vont contredire ceux de Goldman Sachs dont on a parlé tout à l'heure. Il parle, lui, de gains de productivité à horizon de 10 ans de 0,56%. Donc on est loin des 9 et quelques, des 10% dont on parlait tout à l'heure. Et une contribution à la croissance américaine d'environ 1 point de croissance sur 10 ans. Alors pourquoi est-ce qu'il arrive à des résultats qui sont si différents ? Ben en fait, pour deux raisons qui sont d'ordre vraiment méthodologique, et c'est là qu'il peut y avoir un débat d'experts et que finalement la réalité émanera du micro, c'est-à-dire ce que vont réellement faire les entreprises avec tout ça. Il y a d'abord la question de comment est-ce que l'IA va évoluer. L'IA évolue tous les jours, à la fois sur la partie recherche fondamentale et sur la partie recherche appliquée, et donc ce qu'elle peut faire aujourd'hui, c'est différent de ce qu'elle pourra faire dans 5 ans, dans 10 ans. Daron Acemoglu n'a pas pris en compte dans son modèle ces évolutions, alors que Goldman Sachs a fait des hypothèses sur ces évolutions, ce qui donne déjà un premier niveau de différence qui est assez sensible. Et le deuxième niveau de différence méthodologique, c'est la redistribution des gains de productivité. Daron Acemoglu ne considère pas qu'il s'agit de redistribuer les gains de productivité, alors que Goldman Sachs considère qu'il s'agit de les redistribuer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'intelligence artificielle permet de libérer du temps de travail à des individus humains, ces individus humains vont être redéployés sur des tâches qui sont productives, et donc ça va contribuer à la croissance et également aux gains de productivité de l'entreprise.
Donc les uns et les autres ne parlent pas exactement de la même chose.
Disons que le périmètre est un petit peu différent. Ouais.
Julien Pillaud, enseignant-chercheur à l'INSEC Business School, est notre invité dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Dans quelques instants, on va s'intéresser à la rentabilité des entreprises de l'IA. Ça sera juste après le duo franco-congolais Tchégué.
Clic dans la vie comme des clés pour ouvrir ton punani. Ici c'est les abysses, flash pour des bougies, trash pour des bougies, clash pour des bougies d'après pour Toko toko la kisa bango. Toko la kisa bango. Toko toko la kisa bango. Toko la kisa bango. Vite pour un selfie, click, click.
C'était Tchégué sur RFI. Clic, c'est reparti pour parler d'IA et de rentabilité des entreprises de ce secteur avec le chercheur Julien Pillot à mes côtés en studio. Mais d'abord, retour dans les locaux de Sidext avec sa directrice générale.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
On vous retrouve, Inès Besbes, fondatrice et directrice générale de Sidext. Vous êtes une entreprise relativement jeune, mais vous avez tout de même recours à des investisseurs pour pouvoir grandir. Comment évaluer cette rentabilité dans ce secteur qui est effectivement naissant? On sent bien qu'il y a quand même des doutes qui naissent parfois dans l'esprit des investisseurs.
Alors, il faut vraiment comprendre, parce qu'aujourd'hui, dans l'IA, tout le monde est curieux, tout le monde veut tester de nouvelles solutions, mais il va y avoir un vrai parallèle entre les IA indispensables et les IA qui vont être sympas pour tester, mais pas avec une grosse valeur ajoutée. Et je pense qu'il faut vraiment axer la conversation, surtout au niveau des investissements, pour les IA qui sont à forte valeur ajoutée, que les IA justement qui vont être juste intéressantes pour tester, mais pas indispensables dans les entreprises, parce que les budgets se resserrent. Il y a aussi une crise actuelle qui touche énormément d'entreprises, et ces entreprises vont chercher une rentabilité, un retour sur investissement. C'est pour ça que je parlais de retour sur investissement tout à l'heure. C'est que c'est important de montrer à chaque entreprise, par A plus B, que intégrer cette IA va leur permettre d'avoir un gain au niveau de leur productivité et du coup de leur économie interne et qui justement vont leur permettre d'avoir une meilleure croissance. Donc je pense que pour les investisseurs, c'est important de pouvoir comprendre la valeur ajoutée de chaque intelligence artificielle, d'avoir aussi un retour de par les clients, parce que c'est bien d'avoir des investisseurs, mais de voir aussi les clients de ces startups-là. Est-ce qu'elles voient cet outil comme un outil avec lequel elles ne peuvent plus s'en passer? Donc, une fois intégrés, ces outils sont déjà intégrés dans les mœurs des entreprises, ou alors que c'est un outil qu'on peut couper du jour au lendemain et qui n'aura pas non plus un impact significatif.
Et vous, comment vous faites chez Sidext? Vous avez des réunions régulières avec les investisseurs auxquels vous faites appel? Vous leur transmettez les retours des entreprises avec lesquelles vous travaillez? Comment est-ce que vous faites pour convaincre des investisseurs de mettre la main à la poche?
Alors, la conviction, elle a été simple. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'intègre pas l'IA va être une entreprise qui va être derrière ses concurrents dans le marché de manière générale. Donc, elle va être en retard et du coup, elle va avoir beaucoup, beaucoup de mal à rattraper ce retard et va devenir en décalage avec ce qui se passe sur le marché. Donc, il fallait montrer comment Sidext va être intégré dans cette transformation et dans cette accélération de ces entreprises qui vont intégrer l'IA de demain. Et on voit que, d'ailleurs, la majorité des entreprises prennent des initiatives pour ouvrir des budgets, pour intégrer des notions d'intelligence artificielle. Et il fallait convaincre ces investisseurs qu'on passe... Nous, aujourd'hui, nos clients sont principalement des grands groupes et des ETI. On commence aussi à avoir des entreprises à taille moyenne qui nous sollicitent pour notre solution. Et on commence à voir cet enthousiasme, cette envie d'intégrer ces process-là. Les investisseurs l'ont vu rapidement parce qu'on a eu des demandes au bout de... trois mois de commercialisation, on a pu montrer qu'on avait des grands groupes assez connus qui demandaient l'utilisation de notre solution, qui ont aussi trouvé un budget à allouer à Sidext. Et on a vu aussi la rapidité d'intégration d'un outil comme le nôtre, où, en fait, une fois que vous l'avez intégré dans vos process internes de prise de notes, vous ne pouvez pas arrêter du jour au lendemain d'utiliser Sidext. Vous n'avez plus l'habitude de prendre des notes avec Sidext. Donc demain, le métier de chacun ne va pas être de reprendre une prise de notes manuelle. Donc c'est comme ça. Enfin, on l'a montré par le produit, mais aussi par l'attractivité au niveau de notre marché.
Concrètement, c'est tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois que vous devez convaincre ou est-ce que c'est une fois par an, une fois tous les deux ans, enfin, voilà.
Alors on a fait une première levée de fonds et cette levée de fonds a été la période de conviction d'avoir des nouveaux actionnaires dans la société. Donc on a mis 6 mois à faire cette levée de fonds et ce tour de table. Et ensuite, là, on se retrouve avec notre board d'investisseurs tous les trimestres pour faire une évaluation de performance de la société et pour parler de la stratégie de Cinext.
Donc avec l'idée d'élargir encore ce tour de table.
Et d'élargir, donc on vise pour fin d'année prochaine de faire une série IA plus importante, où justement on va chercher des fonds pour aller cette fois-ci à échelle européenne et attaquer de nouveaux marchés.
Merci Inès Besbes.
Merci beaucoup.
Inès Besbes, la directrice générale de Cidex. Julien Pillaud, vous êtes encore avec nous. Cette question des investissements, là on entend beaucoup d'enthousiasme chez cette patronne de start-up. Ça n'est pas forcément le cas en ce moment chez toutes les entreprises de ce type.
En tout cas, son enthousiasme est communicatif. Mmh. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la course à l'armement se fait sur le marché de l'investissement parce que ces entreprises sont très en avance de phase et la plupart du temps, elles ont des coûts de développement qui sont supérieurs à leur capacité à rentabiliser leurs solutions lorsqu'elles la vendent à des clients aussi gros et aussi prestigieux peuvent-ils être. Donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est de se démarquer sur les marchés pour pouvoir se signaler auprès des investisseurs dans un contexte macroéconomique qui a plutôt tendance à se tendre ces derniers mois avec des investisseurs qui sont un peu plus précautionneux qu'ils ne l'ont été ces dernières années. Pour plein de raisons, en fait. Pour plein de raisons, déjà des raisons purement macro-structurelles, hein, macro-économiques, contexte géopolitique qui se tend, des besoins de liquidité qui augmentent de façon à couvrir certaines défaillances au plan industriel, ce genre de choses. Évidemment que ça va jouer pour des entreprises dont l'activité principale, c'est de lever des fonds. Mais c'est aussi parce que les investisseurs commencent à être un peu plus suspicieux aussi sur, finalement, la capacité des entreprises dans lesquelles elles investissent à pouvoir, à horizon 3, 5, 6 ans, voler de leurs propres ailes et générer du retour sur investissement. Donc il faut réussir à démontrer des preuves, à la fois de la qualité du concept, mais aussi de la capacité de ce concept-là à pouvoir générer un business model qui soit rentable. Or, avec les incertitudes qu'il y a aujourd'hui autour du niveau réel de productivité permis par l'intelligence artificielle dont on a parlé tout à l'heure, il commence à y avoir quelques doutes qui peuvent être légitimes. Et il n'est pas interdit aussi de penser que les investisseurs ont plutôt tendance à... alors qu'ils ont beaucoup essaimé ces dernières années, à peut-être dans une logique un peu plus de rationalisation et de contrôle un petit peu de leur niveau d'exposition au risque, à privilégier des entreprises qui sont aujourd'hui déjà les mieux positionnées pour éventuellement gagner une bataille concurrentielle sur les marchés. C'est la raison qui pousse un peu le PDG de Baidu, qui a fait une... Baidu, c'est une très très grosse entreprise chinoise, c'est un des GAFAM chinois, qui a fait une sortie médiatique assez forte il y a quelques jours de cela, en disant que pour lui, à horizon d'une dizaine d'années, 99% des entreprises de l'intelligence artificielle auront disparu, tout simplement parce que les investisseurs ont fléché leurs investissements autour de très grosses entreprises.
Les géants d'abord qui pourraient concentrer, ce qui peut poser des problèmes de concurrence. Vous l'avez dit tout à l'heure, Julien Pillaud, les marchés financiers commencent à avoir des doutes. Si les investisseurs doutent, c'est qu'il y a, pas mal de limites qui apparaissent. Est-ce qu'on va arriver, déjà d'un point de vue technologique, à une sorte de point de rupture ? Puisque l'intelligence artificielle utilise des ressources qui ne sont pas totalement illimitées.
Absolument. Alors là, on va surtout parler des large language models, hein, les LLM, ceux qui sont à la base des intelligences artificielles génératives, telles que ChatGPT, par exemple, dont on parle beaucoup au mid-journée dans le cas de la génération d'images. Ces modèles-là, en fait, ont besoin pour pouvoir finalement exister de se nourrir de beaucoup de données. Et on leur a fait ingurgiter énormément de données. Et en vérité, on leur a fait ingurgiter quasiment toutes les données, d'ailleurs, pas toujours de façon extrêmement légale, tout un tas de données qui ont été produites et numérisées par l'être humain. Et là, on arrive un petit peu au bout du stock de données qu'on peut leur donner à ingurgiter. Alors, on continue à en produire, évidemment, mais on les produit à un rythme extrêmement inférieur aux besoins et au niveau de voracité de ces modèles-là. Et donc, il y a des chercheurs qui commencent à penser que ces grands modèles peuvent éventuellement arriver à une limite, une rupture technique, un effondrement finalement du modèle, parce que justement, on n'est plus capable de produire de nouvelles données de qualité à un rythme suffisant pour satisfaire la voracité de ces modèles-là. Alors, il y a des chercheurs qui disent que ce n'est pas trop un problème, parce qu'on va apprendre des intelligences artificielles à créer de la donnée synthétique, c'est-à-dire recombiner de façon complètement autonome des données préexistantes pour créer de la nouvelle donnée et continuer à apprendre sur de la donnée qui aurait été autogénérée. Et c'est un vrai débat d'experts. Moi, je suis qu'économiste, donc je ne peux pas me prononcer sur ce type de questions. Mais j'écoute ce que les experts me disent.
En tout cas, il y a une incertitude.
Voilà, et certains sont assez inquiets parce qu'ils se disent finalement, il n'y a pas de contrôle sur la façon dont ces données synthétiques ont été créées. Il n'est pas interdit de penser que ce soit finalement des très mauvaises données, de très mauvaise qualité, un petit peu du poison que l'intelligence artificielle finalement s'auto-administrerait, et ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle.
Donc d'autres problèmes à prévoir, autres limites potentielles à la croissance des IA, là c'est bien plus matériel, pragmatique, hein. C'est la ressource en énergie et en métaux, parce que l'IA est très gourmande.
Elle est très gourmande parce qu'elle nécessite évidemment beaucoup d'infrastructures. Donc il faut des terminaux, il faut aussi des data centers pour pouvoir stocker de la donnée. Il faut beaucoup d'énergie aussi pour pouvoir mobiliser cette donnée, à la fois au niveau de l'usage, mais aussi au niveau de l'entraînement des modèles qui sont extrêmement consommateurs en énergie. Pas qu'en énergie d'ailleurs, en eau aussi. En eau aussi, parce que ces data centers, comme c'est
une puissance de calcul.
Exactement. Ces calculs gigantesques sont demandés en fait en permanence, ça génère de la chaleur. Et la chaleur, c'est pas l'ami de l'électronique et de l'informatique. Donc il faut refroidir tout ça avec de l'eau. Et on a certaines estimations qui sont prises avec des pincettes aussi, toujours parce que en vérité, il peut y avoir des paramètres qui vont influer sur les résultats. Mais moi, j'ai pu voir quelque chose d'assez consensuel, c'est qu'une cinquantaine de requêtes sur ChatGPT, ça consomme 1,5 litre d'eau. Mmh. Donc, vous voyez, c'est pas anodin.
Oui.
Parce que le nombre de requêtes sur ChatGPT.
Si on multiplie ça par le nombre de personnes qui font des requêtes, c'est sûr que c'est pas anodin. Ça veut dire que ceux qui en ont les moyens, les géants, vont produire peut-être leur propre énergie, en fait, se débrouiller
tout seul. Et c'est déjà en cas, vous ne croyez pas si bien dire, Bruno, parce que c'est déjà le cas. On a des très gros acteurs américains, les plus gros, en fait, les GAFAM, qui commencent à poser leurs billes pour récupérer des unités de production d'énergie nucléaire dédiées à une seule chose, à l'alimentation de leurs centres de données. C'est assez vertigineux de se le dire comme ça quand même.
Je continue la liste des problèmes potentiels. Les freins réglementaires, on a parlé de la concurrence, les autorités de la concurrence pourraient se saisir de ce secteur de l'IA, éviter une trop forte concentration du marché. Et puis quand on parle de problèmes réglementaires pour les entreprises, il y a aussi tout ce qui concerne la compliance. La conformité, le devoir de vigilance.
C'est ça. Et dans un cas comme dans l'autre, ça peut poser problème aussi au niveau de la promesse de rentabilité finalement de ces solutions-là. Dans le cas de la régulation, c'est plutôt la capacité finalement de ces entreprises, notamment celles qui ont des méga modèles et qui sont sur des modèles propriétaires, de se mettre en conformité. Ça va être coton. Ça va vraiment, vraiment être coton. Pourquoi ? Parce que quand on écoute quelqu'un comme Sam Altman, qui est le président directeur général d'OpenAI, il confesse lui-même que, une fois que la machine est lancée, il ne sait pas lui-même comment est-ce que finalement OpenAI transforme de façon très pratico-pratique de l'information brute en de l'information nouvelle et donc finalement répond à un prompt. Quand on crée une régulation qui exige des entreprises qu'elles soient capables de dire et d'attester de l'éthique by design de leur solution et soient capables d'attester finalement de la façon des secrets de fabrication en fait et de la licéité des secrets de fabrication, on est en droit de se poser quelques questions sur finalement le nombre de sanctions financières qui vont être, et parfois aussi comportementales, qui vont être prononcées à l'encontre de ces entreprises dans un avenir proche.
Puisque vous parlez du patron d'OpenAI, Sam Altman, qu'est devenue l'entreprise à l'origine de ChatGPT, un succès fulgurant dès le début. Les gains ont continué pour la start-up californienne.
Alors les gains ont continué. Ça dépend de quel gars on parle. En tout cas, leur capacité à lever des fonds ne se dément pas. Quand Microsoft investit sur OpenAI, ils n'y vont pas à coût de quelques millions. C'est 10 milliards directement qu'ils investissent sur OpenAI. Donc c'est une entreprise qui aujourd'hui, effectivement, a su faire parler d'elle en avance de phase, a su être une des premières aussi à livrer son démonstrateur technique à une grande part du marché. La fois que j'ai regardé, ils avaient un peu plus de 180 millions d'utilisateurs pour une solution d'intelligence artificielle. C'est quand même quelque chose d'assez colossal. Donc aujourd'hui, ils tirent les bénéfices à la fois de notoriété, mais aussi évidemment derrière de marché lié à leur avantage du pionnier d'une certaine façon. En revanche, Bruno, vous posiez la question de savoir qu'est devenue cette entreprise. On a vu aussi pas mal de démissions à des postes clés de cette entreprise. Et généralement, le discours qui revient, c'est finalement, l'entreprise, je ne la reconnais pas. Elle est très éloignée du projet originel qui devait être plus open source, qui devait être plus dans l'utilité concrète de la solution. Et c'est en train de devenir un gros outil capitalistique au service des très, très grosses entreprises, au service d'investisseurs. Et c'est un petit peu éloigné du projet originel.
Un secteur qui se financiarise. On l'a dit, il y a une très forte concurrence. Il y a aussi Google qui développe Gemini. Et puis, dans cette rivière remplie de crocodiles, il y en a un autre. C'est Elon Musk qui a son propre outil d'intelligence artificielle, XAI, qui a vu le jour en 2023. Il a l'intention de devenir le leader, comme il le fait dans d'autres secteurs.
Elon Musk ne rentre jamais sur un marché pour être autre chose que leader. Donc il y va avec la volonté de gagner. Et il n'est pas le seul à y croire qu'il peut gagner cette bataille-là, quand bien même il a été un peu pris de court, il est un petit peu en retard quand même sur ce marché-là. Nvidia semble, si on en croit les bruissements même du marché, sans l'y croire aussi, parce que les dernières rumeurs font état d'un potentiel investissement d'Nvidia qui est quand même aujourd'hui d'un acteur incontournable de
dans les microprocesseurs.
Dans les microprocesseurs et les cartes graphiques, en fait, qui sont nécessaires en fait, à doter la puissance de calcul aux entreprises qui font de l'intelligence artificielle, qui développent des modèles en fait, d'intelligence artificielle. Donc Nvidia rentrerait probablement au capital de XAI et ça valoriserait XAI à hauteur de 75 milliards de dollars. Donc on serait face à un vrai gros acteur qui disposerait d'emblée de moyens à la fois financiers, humains, techniques, stratégiques aussi.
Et tout ça dans le contexte politique aux États-Unis où Elon Musk est avec Donald Trump.
Voilà, ce qui ne devrait pas freiner les affaires d'Elon Musk, bien au contraire. Et puis derrière XAI, il y a évidemment toute la donnée qui peut transiter par un réseau social tel que Twitter ou X, qui est une donnée qui est à la fois massive, mais aussi généralement une donnée assez qualitative, parce qu'on y parle de sujets qui sont sérieux, on y parle de politique, on y parle d'économie, on y parle parfois de science, pourvu qu'ils fassent la différence entre le bon grain et l'ivré, qu'ils arrivent à séparer, parce qu'il y a aussi beaucoup de désinformation sur ce réseau-là. Mais en tout cas, en matière de quantité de données, il y a ce qu'il faut.
Julien Pillot, c'est l'heure de conclure. Le ballon augmente. Est-ce que finalement, ça va devenir une bulle qui pourrait soit éclater, soit peut-être se dégonfler petit à petit ?
Alors, deux éléments de réponse pour conclure l'émission. La première, c'est qu'il ne faut pas se laisser aveugler par les très très gros acteurs de l'intelligence artificielle, qui sont ceux qui retiennent toute l'attention. Il y a finalement deux marchés parallèles. Il y a le marché des méga solutions propriétaires, et puis il y a un marché, que moi j'appelle un second marché, on peut l'appeler un peu comme on veut, de solutions plus agiles, peut-être plus frugales et peut-être plus spécialisées, voire ultra spécialisées dans la réalisation d'une tâche particulière. Ce marché-là, à mon avis, a un très bel avenir pour des entreprises qui seront capables très rapidement de pouvoir démontrer la qualité de leurs solutions et aussi la capacité à pouvoir générer un retour sur investissement positif.
Mais
ensuite, il y a la question de l'investissement. Et je crois qu'effectivement, il est possible, pour les raisons qu'on a évoquées, qu'on assiste à un dégonflement de la bulle, mais certainement pas un éclatement de la bulle. Pourquoi pas un éclatement ? Parce que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif, les investisseurs n'ont pas du tout intérêt à lâcher l'IA. Dans le cas individuel, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de secteurs d'activité qui permettent à un horizon de 10 à 20 ans de donner les potentiels de plus-value que peut présenter l'IA aujourd'hui pour l'investisseur individuel. Donc en vérité, si vous avez envie de pouvoir investir sur un horizon plutôt long, c'est vers l'IA que vous allez vous tourner de façon assez naturelle. Et sur le plan collectif, en vrai, si l'IA était un acteur, ce qu'il n'est pas, mais s'il était un acteur, on dirait qu'il est devenu un petit peu trop gros pour échouer. Too big to fail, pour citer la langue de Shakespeare. Parce qu'il y a trop d'argent qui ont été investis par de trop gros intérêts. Et ces intérêts, finalement, comme ils ont tous fléché leurs investissements dans la même direction, ils ont tous solidairement besoin que ces solutions trouvent leur marché.
Personne n'a intérêt
à faire écouler les châteaux de
cartes. Parce que la bulle éclate ou même se dégonfle. Exactement. Merci à vous, Julien Pillot.
Merci.
Enseignant-chercheur à l'INSEEC Business School, le groupe Omnes Éducation et auteur d'un article sur ce sujet dans la revue scientifique The Conversation.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur Radio France Internationale.
Comme promis, à présent encore un peu de technologie, mais dans l'automobile, avec le projet africain de deux associés, un Sénégalais et une Nigériane, Rui Mendes da Silva et Nissi Ogulu préparent la sortie d'une gamme de véhicules électriques Made in Africa. Le nom de la marque, Kemet Automotive, première sortie des usines prévue en 2027. Nous avons reçu Rui Mendes da Silva dans nos studios. Voici un extrait de l'entretien.
C'est un long processus. On a passé la phase de design. Aujourd'hui, on a réussi à matérialiser la vision. On a fabriqué un premier prototype grâce à une première levée de fonds avec des business angels. Et là, on est dans la mise en place de cette première unité de production pour justement commencer la production de ces véhicules en 2027.
Pourquoi ce nom, Kemet? On sait l'importance du nom d'une voiture. C'est une référence à l'Égypte antique, je crois.
C'est ça. L'idée, c'est un projet très ambitieux, déjà. Donc l'idée, c'était de pouvoir ajouter un peu d'histoire. Pour nous, l'Égypte antique, c'est l'empire qui a le plus rayonné dans l'Afrique et qui était synonyme d'excellence, d'ingénierie, de mathématiques à l'époque, etc. Et donc, nous, on veut un peu être la renaissance de cette grande Afrique qui a existé par le passé. Et donc, voilà pourquoi on a choisi ce nom, pour faire écho dans le temps.
Rui Mendes da Silva, cofondateur de Kemet Automotive, entretien vidéo à découvrir dans son intégralité sur la chaîne YouTube de RFI, rubrique « Les invités de l'économie ». Voilà, c'est fini pour cette semaine. Samedi prochain, un grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, nous parlerons finances sur le continent africain à l'occasion de l'AFIS, le sommet de l'industrie financière africaine qui se tient cette année à Casablanca, au Maroc. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés, mais pas trop. Tout de suite, un nouveau journal sur Radio France Internationale.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.